Bonsoir, vous êtes, chers auditeurs, vous êtes sur Zoom Écologie, sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous vous rappelons que nous sommes le premier jeudi du mois et que nous invitons chaque premier jeudi du mois des chercheurs et universitaires pour discuter des questions technologiques, scientifiques ou environnementales. Nous avons décidé ce soir de consacrer notre émission à un nouveau champ d'application de la biologie de synthèse, qui fait énormément part d'elle en ce moment, depuis que quelques petits amateurs s'amusent à bricoler des modifications génétiques dans leur garage à l'abri du regard bienveillant du gouvernement, de la police et de l'armée. En 2011, vient d'être créée la première communauté de biologistes hackers sous l'impulsion de Genopol. Cette communauté intitulée La Paillasse constituerait le premier biohack lab qui a la prétention de faire la biologie en dehors des laboratoires industriels ou universitaires en s'inspirant des expériences nées aux États-Unis. Le DEI Bio, Do It Yourself Biology, dans les années 2000 aux États-Unis, avec l'objectif de rendre la biologie accessible à tous, en rendant des publications, cours, protocoles en libre accès, en documentant un maximum de la biologie pour la rendre plus rapide, plus simple, plus accessible, mais aussi en créant soi-même les machines et outils onéreux utilisés en biologie. On va donc parler ce soir de biologie synthétique, biohacking, bioéconomie, biosécurité et bioterrorisme, avec deux intervenantes, Sarah Guiton, anthropologue, doctorante au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po, qui travaille sur les risques, les enjeux éthiques et sociaux de la biologie synthétique. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Nous avons aussi Sarah Tocchetti, je prononce bien le nom.
C'est pas un souci, bonsoir.
Bonsoir, qui est sociologue, donc en STS, au département de sociologie à la London School of Economics, qui fait également sa thèse sur le mouvement DEI Bio. C'est bien ça ?
Ouais.
Super. Donc, qu'est-ce que c'est que la biologie synthétique dans un premier temps, quels sont les objectifs, quels sont les outils en fait, qui sont développés en ce moment ?
Donc, je ne sais pas si tu... Alors, la biologie synthétique, c'est une étape successive du génie génétique. C'est né aux États-Unis autour de 2005, 2004, 2005, proche des institutions telles que le MIT à Boston. Et donc, ils envisagent en même temps, au moment de rupture avec le génie génétique, qui pour eux serait une technique trop, trop approximative, où il n'y aurait pas du tout de contrôle rationnel des transformations génétiques qui sont mises en place. Et donc, leur approche, c'est inspiré de l'ingénierie, d'ingénierie en même temps informatique, mais de l'ingénierie aussi civile. Donc, l'idée de la construction de ponts, l'idée de la construction d'infrastructures. Et peut-être une des approches différentes, c'est qu'on est passé de la métaphore du code informatique tel qu'il était connu dans le génie génétique à une métaphore de l'hardware d'ordinateur, c'est-à-dire de ses composants, que ce soit les switches de logique, que ce soit les condensateurs, les oscillateurs, et donc toutes ces composantes mécaniques et électromécaniques qui composent l'ordinateur deviennent des outils métaphoriques pour comprendre les organismes biologiques.
Et pour intervenir dessus, donc en termes d'application, l'idée c'est beaucoup de programmer les bactéries, donc au niveau de cet encodage génétique sur lequel ces bioingénieurs auraient accès, mais aussi de travailler ces bactéries à travers des fonctions qu'elles seraient capables de maîtriser. Et donc en fait ça crée une approche de la biologie qui est extrêmement applicative. Donc si on pense à ces objectifs, c'est très cadré en termes d'économie des promesses, qu'on pense aux questions énergétiques où il s'agit de construire des biofuels, aux questions agricoles. Donc là, il faudrait penser à quelque chose proche de ce qu'on connaît autour des OGM, mais aussi au niveau des questions médicales, où il y a beaucoup d'applications médicales autour des allergies, autour des traitements du cancer, autour de plein de choses qui sont pensées comme ça. Donc pour faire tout ça, en termes d'outillage, là, c'est très lié avec les récents mouvements au sein de la biologie contemporaine, donc notamment tout le tournant informationnel et informatique. Donc en fait, c'est un type de biologie qui repose sur des banques de données. Non, il faut que je reprenne la chose un peu différemment. En gros, les approches, les trois grands principes de la biologie synthétique, c'est la standardisation,
Le découplage et l'abstraction. En fait.
Le découpage et l'abstraction, donc ce qui en gros organise tous leurs travaux et qui repose sur donc des grandes bases de données dans lesquelles ils ont accès à des séquences et qui vont, à travers des logiciels, pouvoir faire des constructions extrêmement schématiques des organismes qu'ils ont objectif de construire.
Et puis, un côté qui peut être intéressant, c'est toute la technologie des synthèses de l'ADN. C'est-à-dire que dans le génie génétique classique, les chercheurs devaient aller chercher des séquences d'intérêt dans des organismes différents, les reproduisaient par clonage classique, et puis ils assemblaient ces fragments pour créer des nouvelles fonctions. Alors que là, comme Sarah disait avant, ça se passe au niveau théorique, c'est des assemblages qui se font sur des ordinateurs. L'ordinateur, il y a
sur des logiciels libres, c'est ça ou pas forcément?
Pas forcément. Il y a aussi un mouvement de volonté de produire des logiciels de type open source qui font ce genre d'opérations. Et une fois que le chercheur a établi sa séquence théorique, il peut à travers des logiciels d'optimisation des séquences travailler sur des transformations ou des mutations qui peuvent améliorer la production de la fonction voulue. Et une fois que la séquence est prête, elle est envoyée à une boîte qui fait la synthèse chimique.
Une boîte, une entreprise
qui fait la synthèse chimique du fragment d'ADN qui après est introduit dans l'organisme d'intérêt, en fait. Et ça, c'est une étape qui n'était pas du tout possible il y a 7 ou 8 ans, en fait, pour des questions de coût et pour des questions de limite de synthèse des fragments d'ADN, en fait.
Pourquoi c'est moins cher aujourd'hui? Enfin, on sait ou...
Parce qu'il y a, eu des avancées assez impressionnantes au niveau des techniques de synthèse chimique, en fait, qui permettent de synthétiser des fragments beaucoup plus longs d'ADN. Et du coup.
Et leur robustesse est beaucoup mieux assurée qu'avant, en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était à la fois très cher, très long, et on n'était pas sûr que la livraison au bout de 3 semaines qui allait arriver au laboratoire allait vraiment marcher dans l'organisme. Alors que là, en fait, la réduction des coûts va avec une amélioration de la performance et un gain de temps. Ces trois variables-là, elles sont absolument essentielles, surtout dans une biologie qui a des visées industrielles telles, en fait.
Et donc ça, c'est des développements techniques liés à tout l'ingénierie des microfluides, ces genres de technologies qui ont une avancée depuis les années 90, très, très impressionnante, en fait.
D'accord. Et est-ce qu'on peut parler un peu du DEI Bio là, qui est né aux États-Unis? Qu'est-ce que c'est? Qui sont les gens qui participent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Quand est-ce qu'ils se regroupent? Et quelle est leur visée finalement par rapport à la biologie et puis par rapport à la science
Alors c'est beaucoup de questions tout d'un coup. On va essayer un peu de se les partager avec Sarah. Juste pour donner peut-être quelques axes chronologiques, le DIY Bio, donc le Do It Yourself Biology, comme c'est appelé aux États-Unis. Officiellement et dans le discours médiatique, naît en 2008 avec une première réunion dans un pub aux alentours du MIT encore. Donc on est encore dans la zone de type de tradition technologique de Boston, en fait.
Donc c'est organisé par le champ académique.
C'est le type de personnes qui se présentent à ce meeting, c'est ce qu'on appelle des technologistes aux États-Unis, des promoteurs de la technologie, c'est des académiciens et il y a aussi deux ou trois professeurs qui vont à ce premier meeting. Et donc le type de personne est clairement, la diversité, le profil est clairement déjà défini au départ. Les personnes qui ont appelé ce meeting, c'est les deux fondateurs, c'est Jason Bob et Mackenzie Cowell. Et ce qui est intéressant, peut-être juste une anecdote, c'est que même si ce meeting est reconnu comme le moment de commencement de la communauté, Jason Bob avait déjà réfléchi à cette vision. Avait déjà créé le nom, en fait. C'est lui qui a généré ce néologisme.
Donc lui, c'est un biologiste, c'est ça, de MIT, hein.
C'est intéressant parce que Jason Bob a une formation universitaire très variée. Il a fait des études, il a pris pas mal de cours au niveau de son parcours. Il a fait de l'économie, de les sciences naturelles, de l'histoire. Et donc c'est une figure un peu comment dire, d'experts visionnaires, un type de figure qui est très courante aux États-Unis, une espèce d'intellectuel technologiste, je ne sais pas comment traduire ça en français, qui travaille dans le laboratoire de George Church, qui est un chercheur très connu à Harvard.
Il a fait ses études où, ce mec là,
je me souviens plus d'où il vient, mais il a fait ses études en partie, je pense, je ne veux pas dire des bêtises, en fait. Je ne me souviens pas, mais dans un état du sud, en fait.
D'accord.
Et après, il a bougé à Boston pour ce travail, pour travailler au sein du laboratoire de George Church autour du projet de la génomique personnelle, en fait.
D'accord.
Et donc, lui, il a créé ce néologisme. Il a tout de suite acheté le domaine web qui n'existait pas. Et donc, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on voit qu'il y a l'importance des réseaux informatiques pour la mise en place de la communauté DIY Bio. Après, il s'est rencontré avec Cowell.
Cowell, qui est
Mackenzie Cowell, c'est le cofondateur et c'est un biologiste, c'est une personne qui a une formation en master en ingénierie génétique.
Aussi à Boston.
Au MIT, et qui, à ce moment-là, travaillait dans le laboratoire de Drew Andy, qui est un des fondateurs de la biologie synthétique, et qui aidait avec l'organisation de l'IGM, l'International Genetic Modified Machine Competition, dont Sarah va parler maintenant. Et juste pour finir sur le DIY Bio, donc ils ont créé une mailing list, et à travers cette mailing list, ils ont commencé à appeler des gens, à créer une discussion, etc. etc. Et à suite de cette mailing list, il y a eu la formation de groupes locaux, en fait, dans plusieurs villes telles que San Francisco, Los Angeles, Boston, New York et par la suite en Europe.
Et avant que Sarah nous réponde, quelle était donc la volonté, quel était l'objectif précis de la création de ce réseau alors
réseau, donc la proposition qui était d'emblée celle du DIY Bio, c'était de promouvoir la création d'outils et la création de groupes dans lesquels la biologie, dans une vision biologie moléculaire, biologie synthétique, donc pas du tout la biologie en sens élargi, telle que l'écologie, l'évolution ou d'autres disciplines, pouvait devenir un hobby, en fait. Pouvait devenir une forme d'hobby comme beaucoup d'autres hobbies qui sont
comme
pratiqués
faire de la pêche, aux
États-Unis, mais des hobbies technologiques, c'est-à-dire
aux États-Unis,
l'informatique, mais aussi aux États-Unis, il y a des clubs de gens qui préparent des fusées, en fait.
La rocketry.
Et donc, ils sont inspirés des hobbies d'immersion dans l'océan, ce genre de communauté de ce style, en fait.
Ouais, des hobbies soit d'ingénieur, technicien.
Donc des hobbies dans lesquels il y a un contenu technologique, en fait. C'est pas la collection de timbres ou des
nains de jardin.
Exactement. C'est des hobbies avec une très forte composante technologique, en fait.
Donc l'IJM, là, qu'est-ce que c'est, Sarah ?
Alors, je voulais faire un point sur le fait qu'il se passe autour du MIT dans ce début des années 2000, plusieurs choses assez intéressantes. Alors d'une part, McCowell, à ce moment-là, il est dans le labo de Drew Andy. Alors Drew Andy, c'est une des grandes figures de la biologie synthétique.
Pareil,
aussi.
C'est qui Drew Andy précisément ? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait comme formation ?
Alors Drew Andy, c'est un ingénieur civil. Donc qui a une formation d'ingénieur généraliste. Il a notamment bossé pour l'Amtrak, qui est l'équivalent des SNCF aux États-Unis, donc il est très très comme ça. Mais il a eu, de façon un peu contrainte, alors c'est sa façon de se raconter, un UV de biologie moléculaire et d'ingénierie génétique dans sa formation, voilà. Et c'est là-bas où il aurait une sorte de vision sur les promesses que le matériel biologique pouvait ouvrir comme champ à une perspective d'ingénieur.
Il est aussi formé au MIT ?
Non. Lui, il est formé dans une petite école de. J'ai pas le détail là, mais donc pour revenir sur ce contexte, enfin, c'est quoi l'environnement dans le sens écologique de Boston et du MIT à ce moment-là. C'est donc Drew Andy qui a ouvert un département de bioingénierie dans le MIT. et qu'il l'a ouvert dans la School of Engineering et pas dans la School of Science. Et ça, c'est un clivage qui va être très marquant pour la façon de penser, enfin de se construire cette nouvelle
son
discipline.
C'est que
lui, ce qu'il veut, c'est que quand les étudiants au MIT et les étudiantes regardent le programme de tous les cours et toutes les offres de la School of Engineering, ils puissent voir côte à côte l'Electrical Engineering, le Computing Engineering et le Biological Engineering. Et que voilà, la biologie fasse partie de cette nouvelle palette.
Ouais,
voilà. Donc ça, c'est du côté de la formation. À côté de ça, Drew Endy, entre autres, mais surtout sous l'impulsion d'un autre bonhomme qui s'appelle Randy Redberg, qui lui vient beaucoup de l'environnement de l'informatique et des grosses industries du logiciel. Il a bossé pour Sun Microsystems, etc. Crée une compétition
annuelle
de biologie synthétique annuelle qui va proliférer de façon assez importante entre sa création en 2004 et ce qu'elle est maintenant. Donc en 2004, il y a 4 équipes principalement situées dans le Massachusetts, donc c'est en gros les grandes universités qui sont proches du MIT, qui vont créer des équipes pendant lesquelles les étudiants et les étudiantes restent dans les laboratoires et montent un projet.
Pendant une année
Alors, c'est pendant l'été, mais même au début, c'est pendant moins que ça. C'est pendant quelques mois. C'est des équipes très autonomes d'étudiants et d'étudiantes qui construisent un petit projet.
Et qui ne sont pas encadrés.
De biologie synthétique.
Ils ne sont pas vraiment encadrés.
C'est très. Non, c'est très. C'est une valorisation de la.
L'autonomie.
De l'autonomie des étudiants et des étudiantes. Et en disant que c'est une voie d'innovation qui n'est pas dans la reproduction de ce qu'un chef de labo attendrait de
ses... Et une autre forme de sociabilité également.
Voilà. Ouais. Et donc ce concours qui en 2004 réunit 4 équipes, cette année il y avait plus de 150 équipes qui venaient de tous les continents, Afrique excepté. Et donc voilà, qui a beaucoup grossi. Donc ça c'est l'iGEM, c'est un événement qui est absolument centrale autour de cette communauté parce que c'est le passage obligé d'énormément de chercheurs et de chercheuses et c'est voilà, c'est vraiment un événement pivot pour cette communauté.
C'est aussi un moment où on va apprendre à avoir les mêmes pratiques, à avoir les mêmes discours, les mêmes méthodes.
C'est ça,
mêmes,
c'est vraiment une impulsion identitaire sur qu'est-ce que c'est qu'être biologiste synthétique et quelles sont les techniques de travail et quelles sont les techniques... Enfin, c'est quoi l'innovation qu'on met en marche à ce moment-là.
C'est quoi la culture qu'on partage, voilà. Quelles sont les visées que nous voulons défendre.
Et donc, pour revenir sur le DIY... McCowell, lui, il est salarié de l'iGEM et donc en étant dans le laboratoire de Drew Endy, il est un animateur de cet esprit iGEM, donc de cette innovation ascendante, de ce côté bottom-up et très cool où c'est des étudiants et des étudiantes qui, après avoir fait beaucoup de sciences, font la fête au MIT pour célébrer leur projet. Et en fait, quand il va créer, ils vont initier avec Jason Bob ce premier rendez-vous dans un pub pas loin du MIT, il a un discours de rupture avec toute cette dynamique institutionnelle de la biologie synthétique en disant que les premières années de l'iGEM, c'était très bric-à-brac, sympa, il y avait de la place pour les nouvelles idées, les pratiques un peu original, etc. Mais que plus ça avance, plus les choses se standardisent là aussi et que ça devient moins fun et moins amateur et moins tout ça. Et en fait, c'est aussi là où la communauté DIY voilà, prétend conserver un espèce d'esprit et c'est là où tout le discours amateuriste en fait prend un peu de place dans sa distinction avec l'iGEM qui perd ce côté amateur quoi.
Et c'est un détail qui est intéressant, c'est que une très grande partie des membres du DIY Bio, les membres qui sont très actifs, c'est des gens qui ont participé à l'IGM dans des différentes équipes à différentes années, en fait. Et donc, comme Sarah disait, c'est cette espèce de culture de liberté, d'amateurisme et de jeunesse scientifique, en quelque sorte, qui se perd avec l'augmentation et l'ampleur de l'IGM, se perpétue et se cultive dans le DIY bio, en fait. Et donc, c'est cette question de la rupture avec le milieu institutionnel est très ambivalente et très ambiguë, dans le sens où il y a eu un premier moment de rupture, il y a eu des déclarations de Jason Pope et de Mackenzie Cowell sur la big science, mais aujourd'hui les deux mouvements sont complètement hybridés, avec les gens qui participent aux conférences, les membres de DIY Bio qui deviennent le bras de divulgation scientifique de la biologie synthétique, etc., etc., en fait. Et donc ce mouvement de rupture est très très minime et finalement ne repose pas sur une critique de la recherche disons approfondie et...
Bah justement, j'ai reposé du coup par rapport à ce que tu viens de dire une question. Est-ce qu'on peut interpréter justement la dynamique de ce mouvement à la lumière de ce qui a émergé dans les années 70, 80 et puis 90, une remise en cause de l'autorité de la science, de la vision top-down, d'une recherche d'une participation citoyenne dans la fabrication des savoirs. Est-ce que finalement on retrouve vraiment cette idée de anti-système, anti-société industrielle, comme on pouvait le retrouver dans le World Earth Catalogue dont tu vas parler un peu plus tard?
Alors, par quoi commencer? Peut-être l'idée de ce qui est intéressant, que personnellement, je n'ai pas trouvé une continuité avec les mouvements que tu décris de science radicale dans les années, fin des années 60. Et disons, le discours de la participation que le DIY Bio essaie de promouvoir, c'est un discours que, d'une façon sous-jacente, espère que tout le monde devient un scientifique, en fait. Et donc,
j'ai pas compris, tu peux répéter?
Ouais. C'est-à-dire que la façon dans laquelle messieurs, madame, tout le monde peut participer à la science, c'est en s'appropriant les outils et en devenant lui-même et elle-même
un expert,
une scientifique, en fait.
D'accord.
Et pour eux, c'est une critique d'une divulgation scientifique dans laquelle les personnes qui n'avaient pas des connaissances scientifiques étaient juste amenées à écouter. M'était pas amené à faire, en fait. Et pour eux, le fait de donner les outils aux gens pour faire de la science eux-mêmes, c'est une forme de critique politique du système scientifique, en fait.
Ouais, c'est-à-dire de la manière dont on devient scientifique.
Exactement.
C'est-à-dire par le champ académique, la formation, etc. Mais est-ce que dans ce cas-là, dans ce mouvement d'IA Bio, où on trouve des gens qui sont amateurs et qui n'ont pas de cursus.
Mais ça c'est très intéressant. Donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression que ce discours n'est pas. Il faut un moment pour que des amateurs puissent émerger. Enfin, des autodidactes, ce qu'on appelle les autodidactes. Et que pour le moment, le DIY Bio, les membres sont presque entièrement des gens qui ont des bagages universitaires, en tout cas au niveau master, en fait. Si pas plus loin, c'est-à-dire des doctorants ou des postdocs, pas, mais des doctorants, en tout cas. Donc, c'est des gens qui ont, en tout cas, soit en master ou en doctorat, que ce soit en biologie moléculaire, ou en génie génétique ou en biologie synthétique.
Mais alors, est-ce que ça peut être des gens qui, après avoir passé leur master, maintenant travaillent dans des labos ou font, je ne sais pas moi, analyse financière, et qui décident s'amuser entre potes
Il y a un cas très intéressant d'une personne à Boston qui faisait aussi partie du groupe de fondateurs. Et qui, dans les journaux, a été, quand les médias ont commencé à créer beaucoup de discours et d'articles autour de cette communauté, qui était portrayée comme une hackeuse, comme une biohackeuse, etc. On a montré des vidéos d'elle qui faisait des transformations bactériennes, c'est-à-dire qui modifiait des bactéries à la maison, qui faisait des expériences, etc. Dans le cadre de ma recherche, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec cette personne qui me raconte que son but, elle faisait ça pour montrer les limites de ce qu'on pouvait faire et de ce qu'on pouvait pas faire. Mmh. Et que maintenant, elle est en train de faire un doctorat parce qu'elle voit pas du tout pourquoi elle doit, en gros, s'embêter à dépasser toutes ses limites matérielles et technologiques dans sa maison quand elle peut faire ça dans son laboratoire.
Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que c'est apparu, cette notion de biohacking? Est-ce que on peut identifier le mouvement d'IA bio au biohacking ou... est-ce qu'il s'agit bien de le biohacking d'un milieu underground ou au contraire c'est institutionnel? Parce que quand on ajoute comme ça le suffixe hack, on imagine quand même l'idée de pirates, de gens qui font des pratiques comme ça qui sont très personnelles et hors système, cachées.
Mais je pense qu'il y a. Alors c'est très intéressant parce que c'est possible que la représentation des hackers d'ordinateurs en Europe et en États-Unis n'a pas du tout les mêmes origines historiques. Quand on dit hacker aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on parle du Home Computer Brew Club de Stanford. Mmh. C'est un collectif de gens qui ont tous des formations universitaires, que c'est des chercheurs, etc. Et qu'à côté de leur travail institutionnel, ont une passion pour les ordinateurs qui fait qu'ils constituent des groupes d'amitié, des groupes de travail qui sont en dehors des institutions. Mais en même temps, ce groupe se réunissait sur le campus de Stanford. Mmh. Donc encore une fois, les origines de ces politiques de rupture sont très intéressantes et très relatives. Et toute la figure de l'hacker qui évolue après avec, par exemple, le Master of Deception à New York, où c'est tous des enfants autodidactes, c'est des gens qui viennent de milieux sociaux défavorisés, etc. Mmh. Ça, c'est très tardif, en fait. Et fait beaucoup moins partie de la rhétorique de l'innovation américaine.
Mais en tout cas, il commence à avoir des gens donc, qui viennent des milieux beaucoup plus sociaux, des plus défavorisés, qui s'approprient comme ça.
Chez les hackers, en informatique.
Chez les hackers. Là, on parle de hackers ordinateurs, en fait.
Ok, excusez-moi.
Et c'est-à-dire que le mot hacker est devenu un mot très, très complexe qui appelle à plein de conformations sociales différentes et dans le cas de DIY Bio, la référence est dans une forme de rhétorique de Steve Jobs, c'est-à-dire le petit entrepreneuriat américain basé sur une culture de l'innovation et du self-made man,
qui le libéralisme économique. Quoi.
Exactement. Donc on est encore dans une rhétorique de ce...
Donc d'une réappropriation d'un mot et d'une certaine forme de culture, mais juste pour justifier des pratiques qui sont en réalité plutôt assez institutionnelles,
Donc je pense qu'il y a... C'est intéressant parce que c'est possible de discuter de ces limites des critiques ou de quel est vraiment le discours transgressif du DIY Bio. C'est possible de discuter de ça avec eux. Mais, encore une fois, il n'y a pas tellement toute la réflexion qu'il y avait dans les années, fin des années 60 autour du mouvement de Radical Science ou des chercheurs qui, de l'intérieur, critiquaient l'institution scientifique de façon acerbe et de façon profonde, en fait.
On va faire une petite pause musicale que Sarah, tu nous as conseillée et on revient dans trois minutes. Non, c'est pas moi.
Monsieur le Premier ministre, cher François et mes chers amis, la crise, c'est nous qui en profitons. Avec le gouvernement, avec le Premier ministre, nous allons donc aider des entreprises privées avec l'argent public des demandeurs d'emploi. C'est une question de justice. Pour aider nos entreprises privées avec l'argent public, nous avons décidé qu'une prime exceptionnelle de 200 euros sera versée aux entreprises privées. Mais ce n'est pas tout. Je vous annonce que nous avons décidé de doubler 11,5 milliards d'euros qui viendront abonder la trésorerie des entreprises qui gaspillent les impôts des Français. Et ça coûte encore plus cher aux salariés, plus cher de 100 millions d'euros, plus cher de 200 millions d'euros, plus cher de 600 millions d'euros, soit plus cher d'un milliard d'euros, de 4 milliards d'euros de plus, de 8 milliards, de 10 milliards d'euros, de 1 000 euros, de 5 150 000 euros. Et par ailleurs, l'économie privée sera dotée de 73 milliards d'euros, 73 millions d'euros supplémentaires. C'est la raison pour laquelle l'État a décidé d'apporter des fonds propres aux banques privées. 200 millions d'euros, de l'ordre de 26 milliards d'euros, plus 1 centime d'euro, plus 4 000 à 20 000 euros, plus 206 000 euros, plus 1 centime d'euro et 2 milliards et demi. C'est 10 milliards et demi, 760 millions d'euros. Et par ailleurs, 15 milliards et demi, c'est 1 milliard 800 millions d'euros de plus, 300 millions d'euros, plus 4 milliards d'euros, plus 18 milliards, plus 500 millions, plus 1 milliard d'euros à 500 millions d'euros. C'est au moins 3 milliards d'euros, c'est presque 4 milliards d'euros, c'est encore 4 milliards d'euros que nous allons mettre dans la trésorerie des entreprises privées. Au total, mes chers compatriotes, zéro. On n'a pas un centime pour investir.
Bonjour, Sik.
Bonjour, Fip.
Et encore une journée, ça.
Oui, t'as la bourse de papa. Faut dire, cac, la tendance est également baissière, à fort le foot, moins 0,4, et sur le front du troll, de la partie horaire et celle du troll, le point.
Je parle. Je parle pour me faire de la retape médiatique.
Nous sommes de retour avec vous, Christine Lacrit.
J'ai retiré.
Sarah, alors qu'est-ce que c'était là, le morceau qu'on vient de passer ?
Donc ça s'appelle, c'est un duo français, ça s'appelle la voix off et Polemix, et c'est des gens qui font des collages médiatiques, c'est-à-dire qu'ils reprennent des discours officiels, enfin on a entendu Sarkozy, et qui réassemblent ça pour créer un effet satirique et un effet de recul par rapport au contenu du discours politique en fait.
D'accord.
Donc là, ça parlait de la crise et ça jouait sur ce discours complètement irréel de millions, de milliards et de bougements, de mouvements monétaires qui ont très peu de réalité pour beaucoup de gens, etc.
Alors on va parler maintenant de revenir sur le biohacking. Tu as écrit un article en fait où tu as analysé quelques deux revues, je crois, spécialisées qui essayent de promouvoir en fait le mouvement d'IA bio. Et est-ce que tu peux parler de ces revues et nous dire un peu
alors en fait ce texte en fait je m'intéressais à savoir quelles étaient les enfin d'une façon un peu historique quelles sont les valeurs, les représentations de la technologie que les gens du DIY Bio promus par leur propre groupe en fait. Et donc je me suis intéressée par exemple à quels événements ils participent et aussi quels sont les discours autour de la technologie qui sont promus dans ces événements. Et un de ces événements en particulier, ça s'appelle la Maker Fair, en fait. Donc, c'est une foire de faiseurs, hein, ce que pourrait traduire en français par ça. Et donc le DIY Bio a participé souvent à ces événements. Ils parlent d'eux-mêmes comme des faiseurs, comme des makers. Et du coup, je me suis intéressée à voir quel était le discours technologique derrière cette figure du faiseur. Et c'est très intéressant parce qu'on découvre ce que j'essaie d'appeler la biologie personnelle, c'est-à-dire une rhétorique du biologie qui serait inspirée d'un mouvement qu'aux États-Unis on appelle le Whole Earth Catalogue.
Et tu peux nous dire, oui.
Ouais, donc le Whole Earth Catalogue, c'était un recueil. Enfin, c'est un objet très complexe, en fait. C'est d'une façon très pragmatique, c'est un recueil, c'est un bouquin qui était censé donner les outils.
Qui est apparu
dans les années, milieu des années 60, en fait. Qui était publié en Californie.
Dans la culture hippie, hein, c'est
ça ? Oui, et donc c'était un catalogue qui était censé donner les outils technologiques pour que les gens puissent vivre dans des communautés, donc des communes en fait. Mmh. Et donc ces outils techniques étaient de type des technologies de petite taille. Ça pouvait être des tentes, comment construire une tente, comment construire une petite maison.
Comment faire un potager.
Exactement, mais aussi... les ordinateurs faisaient partie de ça dans la première émergence de l'ordinateur personnel, en fait, du laptop.
Mmh. Et oui, il faut aussi noter que World Earth Catalog, ça va être c'est ce qui va donner la forme réseau de l'Internet telle qu'on la connaît. Elle est très issue de cette conception de catalogue ressources outils d'émancipation, parce que c'est vraiment pensé comme ça à ce moment-là, et ça, du World Earth Catalogue on passera au World Wide Web. Et donc ce fameux www qu'on a à taper en termes de protocole, quoi.
Et aussi que la communauté qui va se former autour du fondateur du World Earth Catalogue, qui est Stuart Brand, qui est quelqu'un de toujours vivant et très influent au niveau de la pensée technologique en Californie.
Donc c'était un hippie, mais qui était hyper pro-technologique, c'est ça ?
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en Californie, pour des raisons culturelles qui vont très profondément dans l'histoire de l'État, la technologie est un outil d'émancipation, en fait. Et donc, il y a d'un côté une désillusion du politique comme de arène de changement social. Et il y a une très forte croyance que l'outil induit des changements comportementaux qui peuvent amener à des changements sociaux, en fait. Et que c'est des outils, encore une fois, de petite taille. C'est-à-dire qu'on sort la technologie des grosses machines industrielles, militaires, etc. Et on l'amène à l'individu. Pour promouvoir son changement personnel. Et donc, du coup, l'LSD est aussi une technologie pour eux. C'est aussi un outil de changement social.
Une technologie de voyage.
Hein. Exactement. Et donc, voilà, la technologie à petite échelle devient personnelle et devient moteur de changement individuel et de conséquences sociales, en fait.
Ouais, et l'idée, c'est vraiment que changer le système, ça commence par changer sa vie à soi. Et changer sa vie à soi, c'est changer son environnement et sa maîtrise, sa capacité à être autonome dans les outils et les choses, enfin, vraiment dans le sens choses matérielles qui nous environnent, quoi. Après, c'est une histoire très longue et qui mérite d'être lue et d'être écoutée en tant que telle. Mais on voit comment ces milieux vont ensuite donner naissance à des milieux d'innovateurs, et qu'en fait, toute cette culture, cette contre-culture va nourrir la cyberculture émergente.
Un imaginaire
et une façon de penser l'innovation.
Et donc le DIA Bio va s'inspirer en partie donc de cette culture du World Earth Catalog, c'est ça ? Les revues.
C'est ce qui est intéressant, c'est que autour de cette revue qui s'appelle Make Magazine, en fait, il y a une convergence de ce qui est une tradition du World Earth Catalog, c'est-à-dire une croyance que les technologies personnelles sont un outil d'émancipation sociale. Il y a aussi parce que, comme on disait avant, le World Earth Catalog, après la déception de la vie dans les communes, ces gens sont retournés et ils ont trouvé dans la communauté virtuelle du web ce monde idéal qu'ils n'ont pas retrouvé dans la commune, en fait, et ce qui a donné la Digital Generation, en fait. Et donc, dans le mouvement Make, on trouve un réassemblage de cette approche technologique, le côté web qui vient de la Digital Generation et la biologie qui commence à rentrer dans ça et qui commence à devenir un outil d'émancipation personnelle, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va de façon contemporaine avec ce nouveau mouvement de cultiver soi-même ses légumes, faire soi-même ses yogourts et acquérir... Enfin, la biologie, la définition de qu'est-ce que c'est les expériences biologiques qu'ils font, ça passe du génie génétique à faire ses propres yogourts dans un continuum de réappropriation des certains moyens de survie, en fait.
D'accord.
Et donc, dans ce sens-là, le DIY Bio collabore avec ces communautés pour fournir des outils, que ce soit des outils d'analyse, des bactéries qui composent les yogourts, etc. etc.
Mais je pense qu'il faut... C'est aussi assez important de noter que la dimension de la critique sociale qui, justement, telle qu'elle est... elle est vécue comme un échec à travers la fin des communautés dans les années 70, donc telle qu'elle existait dans tout l'imaginaire du World Earth Catalogue. La critique sociale, elle est beaucoup moins présente dans l'imaginaire du Make Magazine et des Maker Faire, où c'est vraiment l'esprit du bricolage comme voilà comme hobby comme father and son activity le dimanche comme toutes ces choses là alors à la fois il y a on va retrouver toute l'importance de l'open source parce que c'est le moyen de la reproduction de la technologie et de l'appropriation etc et en même temps la question du changement social elle est vraiment
ouais. Mais elle est intéressante parce qu'elle est comme disait Sarah le changement social est vécu ou disons l'émancipation par le contrôle de la technologie est vécue au niveau familial en fait. Et donc il y a l'impression qu'il y a un renfermement autour du noyau de la famille ou des amitiés du voisinat, mais il n'y a plus un discours social sur que ce soit les inégalités sociales ou des formes de discrimination etc qui soit en lien avec la technologie en fait.
D'accord. Bon, on va essayer d'avancer. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que Sarah Guiton, tu pourrais nous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis là avec Steve Kurtz, qui est un artiste biohacker, qui a été arrêté par le FBI. Je sais plus, c'est dans les années 2003, c'est ça, 2004.
Ouais.
Et qui a été et qui a fait entrer finalement le biohacking ou les pratiques comme ça. De biologie confinée dans des garages ou ailleurs, qui a été identifié à du bioterrorisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce tournant là, au tournant
ouais.
des années 2000 ?
Alors c'est une histoire assez intéressante parce qu'en fait Steve Kurtz, c'est un artiste du Critical Art Ensemble, donc c'est un groupe d'artistes qui travaille beaucoup sur qui sont très critiques. Des rapports à la technologie et aux biotechnologies et qui dans le cadre d'un de ces projets s'est retrouvé à disposer d'une sorte de mini laboratoire chez lui pour construire une exposition et en fait suite à un événement assez dramatique à savoir le décès de sa femme dans leur maison il a appelé les services d'urgence qui sont venus et qui ont découvert son laboratoire personnel et qui ont en fait directement appelé le FBI et a commencé à ce moment-là pour Steve Kurtz une affaire de près de 4 ans qui a commencé par une accusation pour bioterrorisme qui ensuite s'est retransformée parce qu'en fait l'accusation bioterroriste ne tenait pas et bon. Voilà. Donc ça s'est transformé sur une question de propriété intellectuelle sur la fin de l'histoire. Mais en tout cas, l'affaire a fait beaucoup de bruit. D'une part parce qu'en fait la menace intérieure était un peu réalisée derrière cette figure de l'artiste qui manipulait ces bactéries.
Là, on était après le 11 septembre 2001.
On était
2001,
après le 11 septembre. Ouais, on était en
Homeland Security.
On était en 2004. La politique de sécurité aux États-Unis. On est sous la présidence Bush, donc c'est aussi beaucoup de la performance des services de sécurité autour de ce type d'affaires et en fait Kurtz va vraiment payer le prix et par ailleurs il va subir très directement des formes de répression qui sont liées au mécanisme que le Patriot Act autorise en termes de levée des droits et de tout ça et donc c'est vraiment une histoire assez paradigmatique d'une façon de gérer la menace bioterroriste et face à un type de pratique qui dans ce début de la décennie 2000 est encore très très peu commune et très inconnue en fait.
Une manière de désigner aussi un nouvel ennemi qui n'est plus l'URSS ou le bloc soviétique et qui maintenant peut se retrouver à l'intérieur même du territoire américain et qui peut déstabiliser comme ça
gouvernement. C'est que ce qui est assez intéressant de voir autour de ce qui se passe alors ça commence un peu avant les attentats de 2001 mais c'est que l'environnement de la sécurité américaine est pas mal bouleversé dès le milieu des années 90 en fait et notamment autour de la figure de la menace terroriste et de son traitement c'est-à-dire que le terrorisme avant le milieu des années 90 je dirais s'est traité comme un comme un crime, et c'est géré en termes de justice comme un crime et pas comme une menace de sécurité, en fait. Ça appelle pas du tout ni au même type de jugement, ni au même type de dispositif de sécurisation, en fait. Et dans les années 90, ce point-là est réformé et c'est encore plus amplifié après 2001 avec le Patriot Act, entre autres, et la création d'un nouveau ministère qui est le Department of Homeland Security, et qui va faire du terrorisme une menace à la sécurité intérieure, et qui va à la fois aller justifier des guerres à l'extérieur, mais aussi permettre des formes de flicage, des comportements et des conduites à travers ces nouvelles interprétations de qui menace, qui met en danger, et comment on fait quand... quand ça se passe comme ça. Quoi.
Et donc, est-ce que cette affaire a transformé finalement le biohacking en une forme de bioterrorisme ? C'est bien ça ? Ou c'est... Alors, c'est plus compliqué que ça.
Alors, ouais, et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, ça se passe sur une période de temps très court. C'est-à-dire que l'affaire Steve Kurtz, à ce moment-là, et Steve Kurtz, il faut connaître un peu le personnage. Il est, c'est un personnage assez critique, assez intello, qui ressemble pas du tout à ces communautés DIY dont Sarah a pas mal parlé avant, quoi. Il est vraiment dans les communautés du bioart, dont on n'a pas eu le temps de parler là, mais qui, en fait.
Et qui d'ailleurs n'utilise pas le terme biohacking, en fait,
ouais. qui sont vraiment, enfin, qui passent par leur accès à la biologie et aux biotechnologies pour formuler des formes de critique sociale un peu créative, etc. Et Steve Kurtz, enfin, la plupart de ses travaux sur la biologie, c'est des critiques des OGM et de ce genre, ou même des dispositifs sécuritaires, en fait. Et donc en fait, ça n'est pas du tout la communauté DIY qui est touchée à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui est condamné, c'est une pratique DIY, c'est-à-dire le fait d'avoir un laboratoire chez soi, mais on ne s'attaque pas à cette communauté, enfin, ça n'est pas cette communauté-là qui est concernée.
Qui d'ailleurs émerge que 4
ans
après.
Qui émerge d'ailleurs plus tard. Mais donc, ce qui se passe dans la foulée, et ça, c'est intéressant, il y a deux facteurs de changement entre le cas Steve Kurtz, qui est un cas de répression, et la bienveillance de toute l'institution, je veux dire, et l'institution sécuritaire états-unienne sur la communauté DIY. Et les deux facteurs de ce changement, donc entre le milieu des années 2000 et la fin des années et le début des années 2010, c'est d'une part la présence d'un flic en particulier, d'un agent du FBI qui va vraiment réorganiser tout le Weapon of Mass Destruction Directorate autour de il va créer des cellules locales qui va encourager à s'engager auprès des communautés DIY, etc. Et donc, en fait, ils vont créer des systèmes de reconnaissance pour se familiariser avec ces communautés et pour, en fait, réaliser que c'est pas un Mackenzie Cowell ou un Jason Bob qui sont des bioterroristes en devenir, en fait.
D'accord.
Et ouais, d'ailleurs, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de collaborer avec ces communautés pour que le DIY bio devienne un modèle culturel des pratiques d'amateurisme au niveau biologique et qu'ils deviennent des standards d'ouverture, de collaboration avec les institutions, etc., etc. Donc, ils sont en train un peu de former et de transformer la culture de DIY bio pour que ça soit un modèle pour les gens qui ont envie de commencer à faire ça, en fait. Et que ça soit un modèle dans lequel le FBI a un rôle, dans lequel les experts scientifiques puissent venir vérifier si les laboratoires répondent aux normes de sécurité, si ces laboratoires offrent des cours de pratique de laboratoire à toutes les personnes qui viennent, etc., etc., en fait.
D'accord. Du coup, là, ça fait peut-être une sorte de lien, parce que je trouvais que ton analyse du biohacking qui devient une forme de bioterrorisme là dans les années 2000 était très, enfin, se rapprochait en fait de l'analyse de pièces et main d'œuvre dans un ouvrage, la recherche du nouvel ennemi, dans lequel en fait pièces et main d'œuvre avance sa thèse selon laquelle il y a une apparence concomitante entre les vocables de bioterrorisme, de biodéfense, de biosécurité et les nouvelles technologies sécuritaires qui l'accompagnent dans le milieu des années 90 et après septembre 2001, et une concomitance donc de ces vocables avec des laboratoires qui sont financés par l'armée, le gouvernement, et qui manipulent en fait en secret des agents pathogènes. Et en fait, pour pisser main d'œuvre, il formule la thèse selon laquelle on va désigner des personnes, un nouvel ennemi, pour invisibiliser ce que font les laboratoires en secret, masquer des pratiques concrètes et, de manipulation de virus, etc., etc. Et je voulais savoir ce que tu pensais de cette thèse. Est-ce qu'elle était trop complotiste ou au contraire, elle avait une certaine une portée
Non, mais je pense qu'en plus, enfin, c'est très juste et que c'est assez intéressant à voir sur ce type de situation, parce qu'en fait, il y a toujours une grande ambivalence. Enfin, je veux dire, l'appellation, le fait de dire que les biotechnologies sont des technologies duales, donc qui auraient à la fois un usage, l'usage d'une recherche légitime qui devrait se passer dans les espaces confinés que sont les laboratoires, etc., mais qu'en même temps, ça pourrait être l'outil du bioterrorisme, etc., ça permet une schizophrénie de l'approche sécuritaire qui justement peut désigner l'ennemi quand celui ou celle qui utilise la technologie ne le fait pas dans les cadres prédéfinis par la loi, et qui en même temps peut construire des formes de laboratoires confinés dans lesquels les choses qui se passent sont complètement invisibles.
Oui, donc finalement pour toi, ça veut dire que cette idée qu'avance PMO en fait a une plus longue histoire et qui renvoie directement au développement des technologies nucléaires civiles et militaires dans les années 50,
ouais,
si je comprends.
Mais ça c'est un autre point. Et disons que la chose que je veux dire là-dessus est un cas un peu paradigmatique de cette approche, c'est par exemple regarder ce qui se passe autour de l'anthrax, qui est à la fois complètement stigmatisé en termes d'outils terroristes parce qu'il y a eu un attentat à l'anthrax juste à la suite du 11 septembre, et qu'en même temps c'est vraiment un des projets dont il est très reconnu que les laboratoires de biodéfense et les laboratoires militaires travaillent dessus, en fait.
Mais ils se sont même aperçus, ce que disent Pièce et Main d'œuvre, c'est que ces enveloppes à l'anthrax, en fait, c'était des personnes qui travaillaient dans les laboratoires, ouais, justement, du gouvernementaux et militaires.
Mais si je peux tirer la thèse de PMO dans un sens un peu différent, moi, je pense que cette... disons que ma façon de travailler sur les risques, c'est aussi de voir comment la mise en lumière d'un risque, donc... qui serait cette espèce d'ennemi du bioterrorisme, etc. C'est aussi une façon de cacher ou de mettre la sourdine sur tout un autre type de discours et des discours qui seraient sûrement plus critiques que le discours sécuritaire.
C'est
en fait
une manière de les canaliser,
voilà,
ces discours-là.
Et de faire exister un risque qui fait très très peur et qui est celui du bioterrorisme, et de créer une sourdine autour de la question des risques environnementaux, des risques sanitaires autour de ces technologies-là, en fait. C'est-à-dire que faire un appel d'air et un appel à l'attention autour du fait que la biologie synthétique pourrait avoir des usages bioterroristes, etc., c'est oublier que dans ces canaux très officiels et très institutionnels d'existence et de distribution, c'est-à-dire le jour où ça sera dans des produits de consommation commune, qu'il y a d'autres risques qui peuvent exister dans ces types d'usages là, quoi. Et qu'en fait le côté recherche légitime, il est incritiquable à partir du moment où on le polarise avec le fait qu'il y a une recherche qui serait menaçante, qui serait celle des terroristes, en fait. Donc l'espèce d'instrumentalisation du risque tel que le monde PMO, moi j'aurais à la fois tendance à valider leur thèse, mais aussi à la tirer sur une palette plus large des risques, en disant que mettre autant de lumière sur un risque, c'est essayer de mettre dans l'ombre toute une série d'autres risques.
Et d'éviter que les citoyens s'interrogent eux-mêmes sur les pratiques qui sont dites officielle dans les laboratoires, sur les manipulations des gènes, etc.
Ouais, et notamment même d'essayer de retirer de la lumière sur des critiques d'ONG, des critiques d'organisations qui se mobilisent spécifiquement sur les questions environnementales et sanitaires et sociales, et ces orgas revendiquant toujours le fait que le misuse, donc le mauvais usage, l'usage malicieux de ces technologies, c'est absolument pas l'enjeu clé dont il faut discuter, en fait.
Mais alors justement, quels seraient des implications sociales, éthiques, environnementales de ces pratiques, par exemple quelles critiques on pourrait formuler
Alors, c'est toujours un peu difficile dans ce type d'objet qu'est la biologie synthétique, mais comme était le projet du séquençage du génome humain, etc. C'est-à-dire que c'est institutionnellement des disciplines qui émergent avec elles toute une batterie d'institutions, de bioéthique, de dispositifs pour penser les formes de critiques qui pourraient être émises contre elles. Et donc en fait, si tu me demandes quels sont les enjeux, je pourrais te répondre qu'il y a une grande liste de 4 enjeux qui sont ce que j'appelle les risques standardisés, qui sont de dire que voilà, la biologie synthétique, ça pose des problèmes de biosécurité, de biosûreté, dans le sens où
mais là tu reprends le discours de ceux qui
voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le discours un petit peu mis en boîte pour dire qu'il y a des choses qui pourraient être discutables autour de ces pratiques.
Mais toi, qu'est-ce qui, d'un point de vue anthropologique, éthique, te semble intéressant justement dans le cas de la biologie synthétique et d'interroger et de
moi questionner... je pense que l'émergence d'une nouvelle discipline de la biologie à ce point motivée par des applications et une transformation industrielle, etc. Ça émerge dans un contexte qui est que nous sommes dans des sociétés qui mettent en controverse leur technologie. Mmh. Et donc, en fait, où la dispute et la discussion autour de quel est le monde social qui entoure une technologie sont des choses qui arrivent et qui sont chroniques, quoi. C'est-à-dire que il y a les OGM, il y a les nanotech, il y a les cellules souches et que tout ça, ce sont des objets de discussion qui participent de l'environnement de la biologie synthétique, en fait. Et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, c'est de voir comment cette mise en controverse et cet environnement de controverse affecte cette science émergente et comment elle essaye de se nourrir de la façon dont on critique, comment elle essaye de s'institutionnaliser d'une certaine façon pour satisfaire le fait qu'il faut la laisser avancer, il faut la laisser exister telle qu'elle le veut, quoi. Et parce que ce qu'on se rend compte très vite quand on rencontre tous ces chercheurs et toutes ces chercheuses, etc., c'est de voir que ils et elles ne veulent pas devenir les prochains Monsanto. Et donc comment ils essayent d'éviter d'être les prochains Monsanto et comment ils essayent de tenir des discours qui leur permettent de ne pas être ça. Moi, c'est ce qui fait ma curiosité là-dessus.
Et Sarah, un dernier mot, on va devoir terminer. C'est un dernier mot sur la question que je viens de poser
Je crois que ce qui me fascine en particulier autour de la communauté de YaBio, c'est justement cette espèce de discours de la transgression et d'une nouvelle pratique, d'une science qui serait différente et qui en fait ne l'est pas en fait. Et donc ce qui est intéressant pour moi, c'est de mettre en rapport des discours politiques radicaux autour de la science, que ce soit au niveau de ce qu'on a dit, les radical science, à la fin des années 70, avec ces nouveaux pratiques qui ont ce discours de transgression, mais qui en réalité, c'est un discours de transgression qui amène encore sur le dépassement des limites technologiques classiquement proposées par la science, en fait.
D'accord. Ben merci beaucoup Sarah Tocchetti, merci Sarah Aguiton, merci chers auditeurs pour votre écoute patiente et on vous retrouvera donc le prochain jeudi du mois de 20h30 à 21h30 sur RFPP 106.3. Merci, au revoir.
We work and pray for peace to reign. Day by day, by night, we work and pray for peace to reign. Day by day, by night, we work and
people are confused about their future. So we turn, we turn, we turn to God. Day by day, by night, we work and pray for peace to reign. Day by day, by night, we work and pray for peace to reign. Go look, Mushi. The conditions just they worse. Go look at Jegunle. The matter make we not talk. See as our papa them they suffer for. Oh show the bus stop. Mama, mama no get any money to chop. Day, by night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign. By night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign.